avez travaillé aussi sur les codons de l'ADN en
Alors,
rapport
les
avec.
codons, moi, je n'ai pas travaillé parce que je ne suis pas justement un spécialiste. Il est incontestable que les 64 codons de l'ADN, ça évoque immédiatement la constitution du viking, n'est-ce pas, les triplés, les sextuplés. Et avec les quatre bases nucléiques, ça évoque les quatre bases, les quatre pôles dans la structure absolue, les quatre pôles équatoriaux. Il est certain que du point de vue opératif, opératoire, opérationnel, si le mot importe peu, c'est très vraisemblablement la même chose. En tout cas, la structure absolue et le viking, c'est incontestablement la même chose. Incontestablement. Le code génétique, je ne suis pas biologiste, mais il y a possibilité probablement heuristique, c'est-à-dire une voie de recherche, dans ce système extrêmement cohérent qu'est le viking, et qui est aussi le fonctionnement de la structure absolue. Voilà. Il y a donc un rapprochement entre la science et la tradition qui est extrêmement significatif. Alors, si vous ajoutez que la structure de l'alphabet hébreu, qui est capitale, puisque l'hébreu c'est la langue, incontestablement la langue sacrée de notre cycle de civilisation, avec ses 22 lettres qui n'ont pas bougé depuis la captivité de Babylone, tout ça n'a pas bougé. C'est la seule langue au monde, l'hébreu. Et ça, c'est extraordinaire, quand on puisse dire que les textes de 2500 ans n'ont subi aucune variation, pour la raison que ce sont des consonnes, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles, c'est une langue qu'on ne prononçait pas, c'est une langue écrite. Et pour la prononcer, il a fallu ajouter des points en voyelles. C'est là que nous avons la science numérale, n'est-ce pas? Mais autrement dit, c'est une langue consonantique, dont l'orthographe n'a absolument pas varié. Quand on faisait varier le sens ou quand on voulait donner quand on voulait la parler, on ajoutait des points voyelles. Alors, les points voyelles vocalisent forcément la langue, modifient la prononciation des mots, mais ne touchent pas à l'orthographe. Alors, derrière, par conséquent, le sens trivial, le sens banal, le sens obvié des mots, vous voyez, le sens habituel, vous avez, du fait de cette existence de ce texte sans prononciation, déjà la notion qu'il y a un sens caché derrière le sens de la prononciation habituelle. Je vous donne un exemple très précis du premier mot de la Genèse, Bereshit. Bereshit à la synagogue et se prononce Bereshit. Ça, c'est quoi? Ça comporte 6 lettres. Mais Bereshit ne peut être prononcé que si on met des points voyelles qui le font prononcer Bereshit. Auquel cas, ça signifie au commencement, ou dans le principe, selon la tradition banale des Bibles, n'est-ce pas? Mais si vous le prononcez Barachit, ce qui ne change absolument pas son orthographe, le va étant vocalisé différemment du E, c'est tout, par des points voyelles qui n'interviennent pas dans les calculs ni dans l'orthographe du mot, il reste composé de 6 lettres qui sont toujours les mêmes, soit dans un cas vous prononcez Barachit, dans l'autre cas vous prononcez Barachit. Un barachit, ça ne signifie plus tout, en principe, ça signifie bara, ilkaya, shit, 6. Ilkaya, 6. Donc, le premier mot de la Genèse dans sa lecture occulte, c'est ilkaya, 6. Vous voyez, le sénère, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. C'est pas moi qui le dis, ça c'est dans le Zohar, n'est-ce pas? C'est dans le Zohar, en toutes les lettres. Vous avez barachit, alors il y a le verset, dans le premier verset, barachit bara Elohim et hachamaim vet haaretz, en toutes les lettres. Alors, il traduit tout de suite la traduction vulgaire au commencement, dans le principe. Elohim, les Elohim, ou Elohim créa les cieux et la terre. D'ailleurs, c'est plutôt que les cieux et la terre, c'est Het, Hashamaim, donc c'est l'ipséité, n'est-ce pas, le principe des cieux, le principe de la dualité, en fait, des cieux et le principe de la terre. Et tout de suite après, il y a Bereshit égale Barachit. Attention! Barachit Ilkaya 6. Attention, c'est dans le texte Ilkaya 6. C'est un texte évidemment d'enseignement. C'est dans le Zohar, dans le Sifra des Zeniota, une des sections les plus occultes du Zohar. Alors voilà en gros, si vous voulez, le fonctionnement en général qui m'a conduit à étudier cette numérologie d'une façon plus précise. Mais la structure absolue reste à la base. Parallèlement, les études de numérologie et les études sur la structure absolue se sont développées dans un petit groupe, n'est-ce pas, auquel je participe. Et elles convergent. Elles ne vont pas l'une sans l'autre. Voilà.